Alors, nous finissons rapidement le chapitre 3 avec cette petite section, deux versets seulement, non, quelques versets de plus. Trois résultats de la justification par la foi. Premier résultat, personne ne peut se glorifier. Versets 27 et 28, je lis. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle est exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Voilà un premier résultat magnifique de la justification par la foi, c'est que personne ne peut se glorifier. Personne ne peut arriver au ciel et dire, ah, j'ai quand même bien assuré, je suis là parce que je suis un type bien. Non, nous arrivons tous au ciel comme des criminels acquittés par la grâce de Dieu, sans pouvoir se glorifier. Et donc, il n'y a pas de rang parmi les chrétiens. Il n'y a pas les super saints, les saints, les un peu moins saints. Nous sommes tous justifiés au même titre. Et vous ne serez jamais plus justifié que ce que vous l'êtes aujourd'hui, parce que vous êtes totalement, entièrement justifié par Dieu. À lui toute la gloire en Jésus-Christ. Deuxième résultat. Puisque nous sommes justifiés par la foi, Dieu est le Dieu de tous, aussi bien des Juifs que des non-Juifs. C'est un des thèmes de l'Épître aussi. Verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Tous sont justifiés par la même méthode, par le même moyen, par la foi, que ce soit les saints de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. J'ai grandi après l'école de dimanche, j'avais compris dans ma petite tête que dans l'Ancien Testament, les gens étaient justifiés par leurs œuvres et que dans le Nouveau Testament, à partir de Jésus, on est justifié par la foi. C'est une erreur. Tout au long de la Bible, on est justifié par la foi. Ainsi, Dieu est le Dieu des Juifs et des non-Juifs. Nul besoin de la loi ou de la circoncision, puisque nous sommes tous justifiés de la même manière. Troisième résultat de la justification par la foi, verset 31. Cela signifie-t-il donc que, par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc, résultat, nous confirmons la loi par la justification par la foi. On comprend un peu difficilement ce que l'apôtre Paul veut dire. Les commentateurs proposent deux solutions. La première serait de dire que nous confirmons la loi dans ce que nous allons la mettre en pratique. Étant justifiés, étant pardonnés, nous avons maintenant l'envie de mettre la loi de Dieu en pratique et ayant reçu l'Esprit Saint, nous avons la capacité d'observer la loi. Ça, c'est une des possibilités et on pourrait parler de ça quand on arrive au chapitre 6. Mais je pense plutôt pour la deuxième explication que nous avons ici dans le point B. Je pense que quand il dit que nous confirmons la loi, je pense qu'il veut dire que nous sommes dans les clous de la loi, ou bien que nous accomplissons la loi qui est donnée dans l'Ancien Testament, nous respectons la justification par la foi qui est présente dans la loi. Dans le chapitre 4, nous allons apprendre qu'Abraham a été justifié par la foi. Et donc, quand nous sommes nous aussi justifiés par la foi, nous confirmons ce qui est déjà présent dans la loi de Dieu. Allons donc maintenant dans le chapitre 4. Donc, le titre qui est donné dans votre plan de cours, c'est L'harmonie de l'Évangile avec l'Ancien Testament. C'est un bon titre. On pourrait donner en sous-titre des exemples de la justification par la foi dans l'Ancien Testament. On pourrait se demander à quoi sert l'exemple, à quoi servent les exemples? Les exemples vont nous aider à comprendre la justification par la foi, mais les exemples viennent surtout, je dirais, prouver que la justification par la foi existait déjà dans l'Ancien Testament, que l'apôtre Paul n'est pas en train d'inventer une nouvelle religion. Non, Abraham a été justifié par la foi, David a été justifié par la foi. Allons-y pour Abraham. Premier exemple, Abraham a été justifié par la foi. On verra cela dans les trois premiers versets. Nous lisons. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Je vous dis au passage que je souligne la pédagogie de l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul avance par une série de questions et de réponses. Il pose à peu près une soixantaine de questions dans l'Épître. Donc, si donc, à un moment donné, en lisant, vous êtes un peu perdu, vous ne comprenez pas trop ce que dit Paul, il est en train de répondre à une question. Il vous faut donc remonter dans votre lecture jusqu'à ce que vous trouviez la question à laquelle il est en train de répondre. Quand vous aurez compris la question, vous comprendrez mieux la réponse. Donc, ici la question, est-ce que Abraham a été justifié par les œuvres? Réponse, verset 2. Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Abraham, donc, et c'est une citation de Genèse chapitre 15, verset 16, 6, il a cru à la promesse de Dieu et Dieu a accordé sa justice à Abraham sur la base de cette foi-là. Donc, si vous ne vous rappelez pas de Genèse 15, très rapidement, Abraham est découragé, il est vieux. Il avait reçu une promesse de Dieu comme quoi il serait le père d'un grand nombre de nations, mais il constate qu'il est le père de personne. Il est très découragé. Dieu le visite à nouveau et lui dit, Abraham, sors de ta tente et regarde les étoiles. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les étoiles dans le désert où il n'y a pas de pollution lumineuse, mais c'est magnifique. On voit un ciel rempli d'étoiles. Et Abraham... On demande à Abraham de compter les étoiles. Peux-tu compter les étoiles? Non. Ben, un jour, tes descendants seront aussi nombreux que ces étoiles. Et Abraham a cru à cette promesse. Imparfaitement, vous me direz. Effectivement, par la suite, l'histoire nous révélera que la foi d'Abraham n'est pas parfaite, mais il y a foi quand même. Et Dieu va justifier Abraham sur la base de cette foi. La nôtre aussi de foi est bien imparfaite, vous conviendrez. Alors, en quoi est-ce que la justification d'Abraham constitue-t-elle un bon argument pour l'apôtre Paul qui veut nous convaincre que la justification se fait par la foi, se donne par la foi? Réfléchissez un instant à cette question. Il me semble que la réponse est assez évidente. Abraham est le père des Juifs et le Père des croyants. Si le Père est justifié par la foi, les enfants aussi connaissaient l'expression tel Père, tel Fils. Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Il est justifié par la foi. Après cet exemple, nous avons une illustration. L'apôtre Paul est un maître pédagogue. La fin du chapitre 3 a été très dense théologiquement, un peu abstrait, justification, rédemption, propitiation. D'un coup, il devient très concret. Il nous donne l'exemple d'Abraham et ensuite une illustration. Quelle est cette illustration? Nous le trouvons au verset 5 et 6. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Si l'exemple sert à prouver la justification par la foi, l'illustration sert à comprendre, à ressentir la vérité de la justification par la foi. Et nous avons ici un contraste saisissant qui est établi entre un salaire et une grâce. C'est par contraste qu'on va comprendre le mot grâce. Alors imaginez la situation. Vous travaillez. Vous avez travaillé dur pendant tout un mois. À la fin du mois, votre patron vous tend votre chèque. C'est votre paye. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous sautez au cou de votre patron en disant, patron, patron, c'est tellement gentil. Vraiment, c'est une grâce. Je suis touché par cette gentillesse. Que tu me donnes tout cet argent. Je ne pense pas que vous fassiez cela, parce qu'il ne s'agit pas d'une grâce, il s'agit d'un salaire. Vous avez travaillé, vous méritez cet argent. Et au contraire, si le patron devait ne pas vous payer, vous serez fâché et vous aurez raison de réclamer votre argent. C'est un tout autre rapport. Comparé avec le rapport établi par la grâce. Maintenant, imaginez cette situation. Ce n'est pas votre anniversaire. Ce n'est pas Noël. Vous n'avez pas rendu un service particulier à cette personne. Et cette personne arrive et vous fait un beau cadeau, un très beau cadeau. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Il y a de la reconnaissance qui va jaillir de votre cœur. Vous allez dire, mais je suis confondu, je suis touché, je suis reconnaissant vraiment du fond du cœur. Merci, mille fois merci. C'est une grâce, c'est immérité. Ainsi, le salut, la justification est une grâce. C'est nullement basé sur quoi que ce soit que nous aurions fait. Alors j'aime bien cette illustration parce qu'elle nous permet peut-être de prendre la température de notre reconnaissance en ce moment. Trouvez-vous facile de louer le Seigneur? Est-ce que votre cœur est plein de reconnaissance envers Dieu pour votre salut? S'il ne l'est pas, peut-être que dans votre pensée, de manière inconsciente, vous êtes revenu à un mode de salaire. Vous dites quelque part que vous méritez ce que Dieu vous donne. Mais si vous vous rappelez que vous ne méritez rien, vous serez constamment dans la reconnaissance. Alors je vous demande, cher ami, ce soir qui m'écoute, est-ce que votre cœur est plein de reconnaissance ce soir? Est-ce que vous avez bien compris la grâce de Dieu, une grâce qui permet à Dieu de déclarer juste l'impie. Vous voyez le paradoxe dans cette phrase. Il déclare juste l'impie. Quelle grâce! L'apôtre Paul, en bon pédagogue, va donner un deuxième exemple. Peut-être qu'on n'est pas encore totalement convaincu que tous les personnages de l'Ancien Testament ont été justifié par la foi. Abraham, d'accord, on le voit. Quid de David? David, lui aussi, a été justifié par la foi. Nous le verrons dans les versets 6 à 8. Je lis. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux sont dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Est-ce que vous avez remarqué le nombre de fois où il y a bonheur et heureux Par trois reprises dans ces deux versets, on voit le bonheur de David. On peut se poser cette question, en quoi est-ce que la justification de David constitue-t-elle un bon argument pour la justification par la foi? Ben, réfléchissons un instant, est-ce que David mérite d'être appelé juste par Dieu? Est-ce que David mérite le paradis? Est-ce que David mérite le pardon de Dieu? Rappelons-nous, c'est un adultère, c'est un meurtrier, c'est un menteur. Et pourtant, il peut parler du bonheur d'être pardonné, pas sur la base de ses œuvres, certainement, mais tout simplement parce qu'il a confessé son péché à Dieu et qu'il a imploré son pardon. C'est contre toi et toi seul que j'ai péché, dit David au psaume 51. Lave-moi, purifie-moi, et je serai pur. Donc David est un excellent exemple de la justification par la foi dans l'Ancien Testament. On voit deux aspects de la justification, me semble-t-il, dans ces deux citations qui viennent du psaume 32. D'abord, on peut dire, le Seigneur ne tient pas compte de notre péché. Quand il nous justifie, il ne tient pas compte de notre péché. Alors, c'est une illustration, mais j'ai l'impression, j'ai envie de dire que Dieu nous amène de moins 10 à 0. C'est-à-dire que nous sommes pécheurs, nous sommes à moins 10, mais Dieu ne va pas tenir compte de ce péché. Il l'efface en quelque sorte, ça nous amène à 0. Mais il fait plus que ça, il attribue la justice, verset 6 dans ce psaume, c'est-à-dire qu'il nous amène aussi de 0 à plus 10, si vous saisissez la différence. C'est-à-dire que Dieu n'a pas simplement pardonné mon péché, il m'a imputé, il a mis sur mon compte la justice de Christ. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jésus est venu sur la terre et qu'il a vécu une vie pendant 33 ans? Je suppose que pour obtenir notre salut, il aurait pu descendre du ciel le week-end de Pâques, être crucifié le vendredi soir et ressuscité le dimanche matin. Pour Dieu, ce sacrifice aurait suffi. Mais nous n'aurions pas pu observer dans les évangiles toute la vie de Jésus, sa vie juste, son attitude vis-à-vis des pauvres, des malades, des laissés pour compte, le fait qu'il ait résisté à la tentation, le fait qu'il ait jamais péché. Nous voyons toute la justice de Christ. Mes chers amis, Dieu prend cette justice-là, la justice de Jésus, il le met sur notre compte. Je vous révèle un secret familial ici. Au Canada, j'ai un cousin qui est très riche. C'est un grand exploitant agricole. On me dit qu'il est millionnaire. Supposons que, dans sa grande grâce, il prenait son compte en banque et il attribuait tout à mon compte à moi. Mon compte à moi qui est parfois un peu dans le rouge. Eh bien, on pourrait dire qu'il a imputé son argent à mon compte. Dieu a imputé toute la justice de Christ à notre compte. N'est-ce pas, une belle notion que la justification par la foi? À ce moment-là, dans son discours, l'apôtre Paul soulève une question. Cette justification d'Abraham, est-ce qu'elle a lieu avant ou après la circoncision d'Abraham? Nous trouverons la réponse ici, en lisant à partir de verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis? Alors, on voit encore la pédagogie de Paul, un système de questions-réponses. Réponse, en effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant sa circoncision? Réponse. Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Alors effectivement, la circoncision est donnée à Abraham au chapitre 17 de la Genèse. Or, nous avons lu qu'il a été justifié déjà au chapitre 15. Et on peut se demander pourquoi est-ce que cette question est importante pour l'auteur. Si vous êtes comme moi, vous vous dites, et alors, quelle importance? Voilà, ça a quand même une certaine importance parce que le but de l'apôtre Paul est d'établir la paternité d'Abraham, non seulement pour les Juifs, mais pour les non-Juifs. Je lis versets 11 et 12. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, donc probablement vous et moi qui écoutons ce soir, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. C'est-à-dire nous, en tant qu'incirconcis, nous pouvons être justifiés puisque Abraham, incirconcis, a été justifié. Il est aussi le père des circoncis, qui ne se contente pas d'être circoncis, mais qui marche aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis. Donc, de qui Abraham est-il le père? Je trouve la réponse intéressante et édifiante. Abraham est le père, selon ces versets, premièrement, des incirconcis qui croient. Donc, vous et moi qui croyons, nous pouvons, en toute tranquillité et de plein droit, dire que nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham est notre père. C'est ce que nous trouvons dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 29. Il y a des commentateurs qui disent que l'Épître aux Galates, c'était le brouillon de Paul pour l'Épître aux Romains. C'est peut-être pas très juste pour l'Épître aux Galates, mais il y a de l'idée. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Par notre croyance en Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham. Ce qui veut dire que quand Abraham est sorti de sa tente ce soir-là et qu'il a regardé les étoiles et qu'il a vu un nombre infini d'étoiles, ce qu'il observait là, ce n'était pas ses descendants physiques, mais ses descendants spirituels. Il est le père des incirconcis qui croient, et il est le père des circoncis, mais pas tous les circoncis ici. Il est le père des circoncis s'il marche dans la foi, le texte précise. Donc la filiation la plus importante d'Abraham n'est pas la circoncision, ce n'est pas la génétique, c'est la foi. Quel privilège! Moi, je trouve que ça m'enracine, ça vous enracine dans l'histoire du salut. L'histoire d'Abraham, c'est il y a 4000 ans quand même. Dieu pensait déjà à nous en promettant à Abraham beaucoup d'enfants, de beaucoup de nations. Une autre question suit. Cette justification, est-ce que elle vient avec la loi ou sans la loi? Réponse dans les versets 13 à 17. C'est sans la loi. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance. Donc vous vous rappellerez que la loi a été donnée par Moïse quelques 500 ans ou plus après Abraham. Mais c'est par la justice de la foi, car si l'on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En fait, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce, et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, Comme cela est d'ailleurs écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Donc, Abraham n'a pas été justifié par la loi qui n'était même pas présente encore. Il y aurait beaucoup de problèmes, selon ce texte, si nous étions justifiés par la loi. Cela rendrait la foi inutile. Effectivement, pas besoin de foi pour essayer d'obéir à la loi. Deuxièmement, si c'était par la loi, c'est-à-dire fais ceci et tu seras sauvé, alors la promesse est contredite. Ce n'est pas une promesse de salut, c'est un salut conditionnel. Troisièmement, si la justification était par la loi, eh bien la loi donne lieu à la colère de Dieu. Personne ne peut obéir à toute la loi. Si nous espérons être en lien avec Dieu en obéissant à la loi, nous nous exposons à la colère de Dieu. Quatrièmement, la loi contredit la grâce. Si nous étions uniquement en lien avec Dieu par l'obéissance à la loi et qu'il n'y avait pas de grâce, eh bien nous serions condamnés. Cinquièmement, dans ce texte, une justification par la loi limiterait l'accès à la justification à ceux qui possèdent la loi, c'est-à-dire au peuple juif. Or, le salut est pour quiconque croit. Et puis, dernier point, si le salut était par les œuvres, eh bien, cela donnerait la gloire aux hommes. J'ai obéi, j'ai obtenu mon salut, et pas à Dieu. Or, nous savons que nous n'avons aucune gloire et que toute la gloire revient à Dieu. Nous allons maintenant aborder une section que j'ai appelée la théologie d'Abraham. Je trouve intéressant de me poser la question, qu'est-ce qu'Abraham connaissait sur Dieu? Alors rappelez-vous qu'Abraham, c'est avant Moïse. Or, c'est Moïse qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible. Qu'est-ce qu'Abraham avait comme révélation de Dieu? Si Abraham, à son époque, devait écrire une théologie systématique, qu'est-ce qu'il écrirait? Alors, j'ai avec moi ici un énorme livre de théologie. Il y a, je ne sais pas combien de 1500 pages à peu près de théologie. On sait beaucoup de choses sur Dieu maintenant avec la révélation biblique et tous ceux qui l'ont commenté depuis. Mais Abraham a très peu de révélations, mais il croit des choses très importantes au sujet de Dieu. Nous allons examiner sa théologie dans les versets qui suivent. Essayez-vous de détecter la théologie d'Abraham. Ce qu'Abraham savait de Dieu, versets 17 à 22. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le Père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Alors qu'est-ce que Abraham croyait au fait? J'ai repéré trois choses. Il croyait que Dieu est le Dieu qui donne la vie aux morts. À quel moment de la vie d'Abraham est-ce que nous voyons ceci? Ben certainement quand il est appelé à offrir son fils Isaac en sacrifice. En laissant les serviteurs, il dit aux serviteurs, nous reviendrons vers vous. Et l'épître aux Hébreux dit qu'Abraham a récupéré son fils par une sorte de résurrection. Abraham croit que même s'il doit sacrifier son fils, Dieu donne la vie aux morts. Abraham croit une deuxième chose. Il croit que Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Dieu a dit, tu seras père d'un grand nombre de nations. Ça n'existe pas encore pour Abraham. Mais Dieu peut appeler cela à l'existence. Certainement qu'Abraham croit ces choses en regardant la création. À partir de rien, Dieu a créé la lumière, les planètes, les hommes, les animaux, c'est ce qu'on appelle la création ex nihilo, à partir de rien. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Troisième chose, il croit aussi que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Dieu est fidèle, il connaît cette caractéristique de Dieu. Chers amis, il nous faut croire ces trois choses, que Dieu ressuscite les morts. J'ai perdu ma maman il y a 15 jours. Je suis dans cette confiance que Dieu ressuscite les morts. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il se trouve que mon ministère en France a été plutôt dans l'implantation des églises. Nous sommes dans notre cinquième projet d'implantation d'églises. J'ai vu Dieu appeler à l'existence des églises qui n'existaient pas. Il le fait toujours. Et j'ai pu éprouver encore et encore la fidélité de Dieu. Nous arrivons à la dernière petite section, versets 23 à 25. C'est l'application. L'apôtre Paul, c'est un bon prédicateur. Il nous a donné le principe de la justification par la foi à la fin du chapitre 3. Ensuite, il nous en a donné des exemples, Abraham et David. Il nous a donné des illustrations. Maintenant, l'application. Quelle application pour nous? Ben, il nous dit au verset 23, ce n'est pas pour lui seulement, c'est-à-dire pour Abraham, qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous, pour vous et moi ce soir. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Donc Abraham devait croire la promesse de Dieu, que Dieu lui donnerait en héritage un grand nombre de nations. Nous devons croire autre chose, nous avons reçu une autre révélation. Nous allons décortiquer rapidement ce que nous devons croire. Nous devons croire en celui, c'est-à-dire nous croyons en une personne, avant même de croire en un dogme, dans des informations. Nous plaçons notre confiance dans une personne, une vraie personne, Dieu. Dans une personne qui a fait quelque chose, Dieu qui a ressuscité Jésus. Nous croyons que Dieu a physiquement, corporellement ressuscité Jésus d'entre les morts. Ceux qui ne croient pas cela ne sont pas sauvés, selon ce texte. Ensuite, quand l'apôtre Paul parle de Jésus, pratiquement jamais il dit le nom Jésus tout seul. C'est toujours Jésus-Christ ou Jésus-Christ notre Seigneur, ou ici Jésus notre Seigneur. Donc, pour être sauvés, nous devons croire en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il y a la Seigneurie de Christ. Nous ne pouvons pas venir à Christ pour le salut simplement, pour un ticket pour le ciel. Nous venons en pliant le genou pour l'appeler Seigneur et Maître, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Ce Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos péchés. C'est l'expiation pénale. Jésus est notre substitut. Nous devons croire ceci pour être sauvé. Beaucoup de théologiens libéraux aujourd'hui ont abandonné la pensée de l'expiation pénale ou de la résurrection corporelle de Jésus. Livrés pour nos offenses, nous devons alors reconnaître nos péchés. Nous sommes pécheurs, nous avons besoin du pardon, nous avons besoin que quelqu'un paie pour nous et ressuscité pour notre justification. Nous devons croire que Jésus est ressuscité, que ainsi il a obtenu notre justification, c'est-à-dire que le Père nous transmet la justice de Christ. Il y a un échange. Il met sur Jésus nos péchés, qui porte en lui-même, en son corps, sur le bois, et il nous donne en échange la justice de l'homme le plus parfait de l'histoire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je suis à votre disposition pour des questions si vous le souhaitez.
Merci beaucoup, Brad. La technique fonctionne, c'est magnifique. Merci pour cet exposé de la fin du chapitre 3 et du chapitre 4. Quelqu'un demande davantage de précision sur une chose que tu as dite au début de ce deuxième exposé. Je n'ai pas bien compris l'affirmation « nous confirmons la loi ». Pouvez-vous développer un peu plus?
Oui, c'est une bonne question. Donc, quand l'apôtre Paul emploie la loi tout à la fin du chapitre 3, ici nous confirmons la loi, je pense qu'il fait référence à tout l'Ancien Testament. Parfois, il résume l'Ancien Testament en disant les lois et les prophètes, parfois simplement la loi. Il veut dire que quand il met en avant la justification par la foi, ce n'est pas une rupture avec l'Ancien Testament, ce n'est pas une contradiction avec l'enseignement de l'Ancien Testament, mais c'est au contraire une confirmation de ce qu'enseigne l'Ancien Testament, déjà par tout le système des sacrifices, mais aussi dans ces deux exemples qu'il nous donne au chapitre 4 avec Abraham et David. Alors, je ne sais pas si ça suffit comme explication.
Je pense, oui, merci. Merci beaucoup en tout cas, Brad. Et puis, je vais laisser la parole à Antoine.
C'est un grand plaisir pour moi. À bientôt pour la suite.
Oui, merci beaucoup, effectivement. Ça m'a fait penser cette présentation aussi à deux versets dans les Actes aussi, où Paul dit de ne pas considérer sa vie comme précieuse, en tout cas il le faisait lui-même, et je ne vis plus moi dans les Galates, mais Christ qui vit en moi. Effectivement, ça m'a fait penser à ces deux versets, quand Brad nous expliquait que cet évangile concentré des versets 23, 24, 25, je pense que ça nous interpelle aussi les uns les autres, au temps auquel nous sommes parvenus, d'expliquer d'avoir des occasions d'expliquer cette source de l'évangile, ce contenu de l'évangile. Et je pense que c'est vraiment très, très important. Encourageons-nous les uns les autres, motivons-nous à le faire. Il y a encore des gens à sauver, Dieu veut les sauver et nous utiliser. Je pense que Brad sera d'accord avec ça, même si on ne s'est parlé qu'une fois et qu'on se connaît très peu. Mais voilà, merci pour tous ces encouragements, cet enseignement. Et puis, on est parvenu à la moitié maintenant de notre première partie des Romains, puisqu'il y a 8 chapitres, on est à la fin du chapitre 4. Alors, stick with us, restez avec nous, et dans 2 semaines, on se voit pour aborder la suite avec Brad Dixon également.
Et
Voilà, merci
merci
beaucoup.
Antoine. Hein. J'en profite juste pour dire le prochain cours, il y a aussi une semaine de décalage, donc ça sera le lundi 4 novembre.